Au Sénégal, dimanche soir, faisant état de tirs à l'arme lourde qui seraient entendus vers Sindiane, au sud du pays. Mais à travers un communiqué officiel, donc rendu public très tard dans la soirée, la Grande Muette a confirmé l'information dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation des personnes et des biens. Les armées sénégalaises donc ont lancé ce dimanche une opération dont l'objectif principal est de démanteler les bases de la faction MFDC, donc le mouvement des forces démocratiques de la Casamance de Salif Sadio, situé le long de la frontière nord. Ainsi, selon la direction des informations et des relations publiques de l'armée, cette opération vise également à détruire toutes les bandes armées menant des activités criminelles dans la zone et à neutraliser toute personne ou entité collaborant directement ou indirectement avec elle. La même source, donc, de rappeler que les armées restent déterminées à poursuivre ces actions de sécurisation et à préserver à tout prix l'intégrité du territoire national. Cette vaste opération militaire est menée quelques semaines après la libération de 7 soldats détenus par Sadio suite à un accrochage mortel à la frontière donc gambienne. Et cette opération militaire lancée ce dimanche est une mission de sécurisation, donc, comme le dit l'état-major à Dakar, au nord de cette région agitée par la rébellion indépendantiste, près de la frontière avec la Gambie. Cela fait suite donc aux accrochages survenus le 24 janvier entre des soldats sénégalais et la force donc de la force CDAO en Gambie et des combattants du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Le dossier de la Casamance au Sénégal rappelle un peu le dossier de la région du Tigré en Éthiopie et également celui des zones anglophones au Cameroun. Ces pays combattent les groupes de rebelles car outre leurs nombreuses revendications indépendantistes, il est clair que ces groupes ont des puissances extracontinentales qui les manipulent et les utilisent comme levier de pression contre les États africains. Là où il y a des rebelles, il n'y a pas de groupes terroristes et évidemment, il n'y a pas non plus de groupes terroristes là où il y a des groupes rebelles comme cela. Attaquer ces rebelles fait intervenir l'ONU et les droits de l'homme et ramène de nombreuses ingérences de la part de la communauté internationale, des ONG, etc. Ces organismes internationaux attendent toujours que les États africains les laissent faire et les laisser faire met en danger une nation dans son entièreté. Ce qui pousse de plus en plus de pays africains à lancer une offensive contre ces groupes rebelles afin d'empêcher certaines puissances malveillantes de vouloir les utiliser comme levier de pression. Décidément, le retrait forcé des troupes françaises du Mali, en plus de l'humiliation que cela infligeait à Paris, devient une pilule de plus en plus difficile à avaler pour le président français Emmanuel Macron. Que dire aussi de la présence russe au Mali? Elle provoque tout simplement une hystérie collective au sommet de l'État français. Macron lui-même, Jean-Yves Le Drian, Florence Parly, respectivement ministre des Affaires étrangères et de la Défense, se sont donnés en spectacle dans un concert de diatribes contre les autorités maliennes. Les incessantes déclarations sur le Mali et ses dirigeants de ces trois responsables français ont apporté la preuve sur les vraies intentions et leurs véritables motivations concernant le Mali. La présence française au Mali, elle a d'autres objectifs inavoués que de ramener la paix. Retrait des forces françaises, présence russe sur le sol malien, ce sont là donc deux événements qui motivent l'ire de Paris contre le Mali. Alors pour laver l'affront et punir les pseudo-putschistes, Macron ne manque pas d'imagination, encore moins de plans diaboliques. D'ailleurs, la France a toujours eu recours à des méthodes tordues à chaque fois qu'elle veut déstabiliser un pays, surtout africain, qui décide de prendre son destin en main. Pour preuve, la destruction de la Libye par les Occidentaux sous l'instigation de Nicolas Sarkozy et l'invasion du nord du Mali en fin 2011 par une horde de groupes armés donc venus de cette même Libye, aidés et poussés dans leur entreprise par la France et donc certains royaumes du Golfe Persique. La suite est connue. Aujourd'hui, tout indique que Macron a bien assimilé les leçons de déstabilisation de Sarkozy. Il traîne encore derrière lui les nombreuses casseroles de son passage à l'Élysée. Le Mali devient encore une cible pour le locataire de l'Élysée. En effet, dans une volonté manifeste de faire plier le pays et ses autorités, Macron a mis d'abord à contribution certains chefs d'État de la CEDEAO. Résultat, des sanctions fusent contre le Mali et des dirigeants du pays. Et curieusement, au même moment, la CEDEAO et la France ferment les yeux sur ce qui se passe dans d'autres pays de la sous-région et qui sont dans une situation identique au Mali, donc transition militaire. Vous avez dit deux poids, deux mesures, eh bien c'est vrai. Et en outre, les autorités françaises ont vainement tenté d'entraîner dans leur sillage d'autres pays de l'Union européenne après avoir échoué à faire voter une résolution de l'ONU contre le Mali. Et comme si tout cet acharnement donc contre le Mali ne suffisait pas, Paris, à l'évidence, concocte d'autres machinations contre le pays. Dans ce sens, des événements se multiplient à l'intérieur et à l'extérieur du pays, et ce sont là des signaux qui ne trompent pas. Pour arriver à ces fins, Macron compte-t-il sur l'appui de certains éléments? Touareg, par exemple, qui multiplie des actes de provocation et autres déclarations incendiaires depuis quelques jours. Tous les prétextes sont recherchés pour rallumer le foyer du Nord. L'État malien doit être sur ses gardes et surtout vigilant face aux nombreuses manœuvres en cours pour faire payer cher au Mali le renvoi des forces françaises. De son côté, le médiateur algérien et la communauté internationale sont interpellés par les agissements de tous ceux qui veulent remettre en cause, notamment l'accord de paix. Autre manœuvre contre le Mali, depuis quelques jours, des forces obscures tentent de détériorer les relations sécuritaires d'amitié entre le Mali et la Mauritanie. Et ce pays, malgré les multiples pressions de la France et de la CEDEAO, a tout de même accepté d'ouvrir largement ses frontières et ses ports pour l'acheminement des produits maliens. Ce geste de solidarité des autorités mauritaniennes à l'adresse du Mali et ses populations semble inacceptable pour ceux-là même qui n'ont aucune compassion pour le peuple du Mali, qui tient malgré donc les sanctions de la CEDEAO. Alors, il est impérieux que les Mauritaniens et Maliens se parlent et accordent leur violon afin de déjouer les plans de ceux qui veulent remettre en cause cette nouvelle coopération entre les deux pays. Car autant le Mali a besoin d'un corridor mauritanien, autant la Mauritanie tire un grand profit de la situation actuelle. Et c'est pourquoi, au lieu de tomber dans un piège flagrant, qui est donc tendu pour nuire à la relation entre ces deux États frères, la Mauritanie et le Mali ont donc décidé ensemble de faire face au problème et sans aucune aide extérieure. Les deux États ont reçu une délégation donc de part et d'autre et une commission d'enquête mixte a également été mise en place. Et au Mali, tout le monde le sait, la France ne compte pas en rester sur un échec. Et pourtant, c'est bien la réalité. Et même si c'est une pilule difficile à avaler, il est clair qu'il faudra bien qu'elle passe. Après donc la rupture diplomatique avec la France et l'expulsion de Barkhane et compagnie du territoire malien, les feux semblent ouverts pour négocier avec les leaders de certains groupes donc, qui sèment la désolation dans le pays. L'un des plus grands défis des autorités de transition est donc de réussir le pari de la paix par le démantèlement des groupes terroristes. Et cela doit passer non seulement par un plus grand éveil des troupes maliennes, mais aussi par la négociation avec certains chefs de groupes, donc en vue de les désarmer. Et pour contrecarrer toutes les velléités donc meurtrières de ces criminels qui menacent les fondements même des États africains. Parmi les points positifs de cette transition, on mentionne le front sécuritaire où l'armée malienne, de plus en plus bien équipée, parvient donc à avoir des succès dans la sécurisation du territoire. Sauf que ces derniers jours, l'on assiste à un certain réveil, une certaine sournoiserie avec des attaques terroristes. Donc, qui se sentent en danger donc, et qui décident soudainement de passer à l'offensive. Ce fut le cas notamment de l'attaque de Mondoro dans la région de Mopti, d'Intahaka dans la région de Gao et Andera-Boukane dans la région de Menaka. Ces événements malheureux ayant fait des victimes poussent à se demander pourquoi les plus hautes autorités tardent encore à enclencher le processus de discussion avec les chefs terroristes maliens. Puisque différents foras des forces vives du Mali ont déjà recommandé cette démarche, à laquelle la France s'était évidemment opposée. En effet, le dialogue national inclusif, la conférence d'entente nationale et les concertations nationales ont plaidé pour l'État malien de discuter notamment avec Iyad Ag Gali et Amadou Koufa. C'est donc à cette option de la carotte que doit s'ajouter la voie du bâton pour donner des chances réelles de pacification du pays. Et ceci malgré qu'aujourd'hui tout le monde s'accorde pour reconnaître la montée en puissance des forces armées maliennes. Mais cette embellie ne doit pas non seulement constituer donc l'arbre qui cache la forêt. Une vigilance exceptionnelle doit être de mise, surtout dans le contexte du départ évidemment des troupes françaises de Barkhane et de ses alliés européens, la force Takuba, qui cherche absolument encore à instaurer la déstabilisation du Mali pour faire payer son départ forcé. C'est en effet donc Et avec la récente évolution de la tension entre la France et le Mali, ayant abouti donc à une quasi-rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, il urge de saisir la balle au rebond pour reprendre l'initiative du dialogue entre frères maliens. Surtout que depuis plusieurs semaines, des groupes signataires donc de l'accord issu du processus d'Alger s'agitent pour réclamer l'activation de la mise en œuvre de cet accord. Mais évidemment, cet accord a toujours été contesté, surtout du côté du Mali, car il n'en tire aucun avantage. De plus, cet accord n'a pas été signé vraiment entre Maliens. C'est bien la France qui en est l'instigatrice, car grâce à cet accord, le nord du Mali se verrait officiellement quasiment séparés du pays. Dans ce sens, le gouvernement, à travers le ministère de la Réconciliation nationale chargé de la mise en œuvre de l'accord, doit prendre le taureau par les cornes et il doit s'appuyer donc sur des autorités traditionnelles et religieuses et des leaders communautaires pour initier des rencontres de concertation en vue d'aller à une paix définitive et non pas sur les directives seulement de la France. Selon beaucoup de Maliens, cet accord doit être révisé et entièrement rédigé par les Maliens et entre Maliens. Parallèlement, le ministère donc de la Défense et le haut commandement militaire doivent, sous la supervision du chef suprême des armées, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, prendre toutes les mesures appropriées pour éviter toute nouvelle attaque surprise des forces obscurantistes. Ne dit-on pas que qui veut la paix prépare la guerre? Le président de la transition, son premier ministre et son ministre de la Défense sont plus que jamais interpellés afin de capitaliser davantage le soutien populaire dont ils bénéficient déjà, en tendant la main donc justement aux frères maliens égarés. L'apaisement est à ce prix. Les groupes terroristes qui sont à la solde de la France donc sont en fuite car ils savent qu'ils ne pourront plus faire le poids face à l'armée malienne. Certains groupes maliens ont été visiblement donc mis à l'écart car la France avait décrété que c'était des groupes terroristes, ce qui laisse à penser que ce n'est peut-être pas vraiment le cas en réalité. Le dialogue national pourrait justement clarifier la situation et mettre donc au grand jour les vrais ennemis du Mali.
Les échanges transfrontaliers entre la RDC et l'Ouganda ont augmenté de 44% en janvier 2022. Longtemps divisés sur des questions sécuritaires et frontalières, la RDC et l'Ouganda ont vu leurs relations s'améliorer et impacter leurs liens commerciaux. Une dynamique que les dirigeants des deux pays voudraient maintenir sur plusieurs années. De récentes statistiques de la Banque centrale d'Ouganda indiquent que les exportations du pays à destination de la RDC se sont établies à 74,3 millions de dollars au cours du mois de janvier 2022 contre 29,9 millions de dollars en décembre 2021. Ce chiffre, qui constitue un bond de près de 44%, fait du voisin congolais la première destination des exportations ougandaises vers les États d'Afrique de l'Est et du COBESA, marché commun pour l'Afrique orientale et australe. Au Burkina Faso, 13 gendarmes ont été tués lors d'une embuscade dans le centre-nord. Au moins 2 civils ont perdu la vie suite à l'attaque de leur bus et 13 gendarmes ont été tués suite à une double attaque. La première attaque a visé un bus de transport avec plusieurs passagers à son bord à 5 km de la commune de Taparko dans la région du Centre-Nord. Alertée, une équipe du 11e régiment d'infanterie commando et les gendarmes de l'escadron de Dori font route vers le site de l'incident. C'est au niveau de la localité de Yalgo, sur le même axe routier où a lieu l'attaque contre le bus, que les gendarmes tombent dans une embuscade dans l'après-midi. Depuis quelques semaines, les groupes armés semblent avoir décidé d'exercer une pression sur la ville de Dori, le chef-lieu de la région du Sahel. Déraillement du terrain en RDC, Macky Sall présente ses condoléances à Félix Tshisekedi et prompt rétablissement aux blessés. Le bilan du déraillement du terrain dans la province du Lualaba en RDC fait un nouveau état de 75 morts et 125 blessés, dont 28 avec un traumatisme grave. D'après le ministère de la Communication et Médias, les blessés ont été orientés vers les centres médicaux spécialisés pour des soins appropriés. Ouverture des frontières entre le Mali et la Côte d'Ivoire pour les camions chargés de clinker. Nous avons reçu des instructions de nos hiérarchies qui nous demandent de libérer les camions chargés de clinker, ont déclaré le 13 mars le lieutenant de police chargé de la gestion des frontières et chef du bureau frontières des douanes de Niguni, poste frontalier au Mali. Des formalités administratives se déroulent au niveau des deux postes de douane frontière, puis à la police frontière, et la barrière est levée pour rentrer sur le territoire malien. Rappelons que ces camions étaient bloqués pendant 2 mois à Tengrela à cause des sanctions de CEDEAO. Cette ouverture des frontières pour ces camions de clinker a été faite hier par les douanes à la joie des chauffeurs inter-États.